Je vais vous présenter notre conférencier de ce soir. Donc, Yvon Lemao est né le 7 septembre 1947. Il est écophysiologiste. Il est directeur de recherche au CNRS, chercheur au Centre d'écologie et physiologie énergétique de Strasbourg. Pour son parcours, doctorat d'État et sciences, Université Claude Bernard à Lyon, secrétaire général de la Société d'écophysiologie, directeur de recherche au CNRS, membre de la commission scientifique de l'Institut français de la biodiversité, membre de l'Académie des sciences et de l'Academia Europaea depuis 2000. Ses travaux portent sur l'étude des mécanismes adaptatifs des animaux aux contraintes environnementales. Ses recherches ont d'abord porté sur les animaux des régions polaires, en faisant notamment appel aux nouvelles technologies basées sur l'utilisation de la microélectronique et de la microinformatique, avant de s'intéresser aux animaux des milieux tropicaux ou de nos régions. Pour sa bibliographie, Yvon Lemao a écrit de nombreux articles dans des revues spécialisées nationales et internationales, des revues d'audience générale comme Nature. Il collabore régulièrement à des revues de vulgarisation scientifique. Il a également participé comme directeur scientifique à la réalisation de films scientifiques, Manchots sous haute surveillance et les Manchots plateformes océanographiques. Je lui laisse la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi il y aura un débat de 20 minutes avec le public. Merci.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous êtes venus nombreux ce soir en affrontant les conditions climatiques d'aujourd'hui. Ce n'est rien, je vais vous le montrer, en comparaison de ce que les oiseaux vivent. D'abord, on les trouve un petit peu partout sur notre planète, des régions désertiques les plus chaudes, les plus inhospitalières, aux côtes de l'Antarctique. Le seul animal, d'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure, qui se reproduit en hiver le long des côtes du continent antarctique est un oiseau, le manchot empereur. Il y a quelques années, des aviateurs, au niveau des Nouvelles-Hébrides, ont rencontré des cygnes, volants à plus de 8000 mètres d'altitude par près de moins 50 degrés Celsius dans des vents de 180 km/h. D'autres oiseaux migrent en survolant l'Himalaya, traversent des mers, et c'est de tout cela dont je vais parler ce soir. Je vais bien sûr commencer par les oiseaux qui vivent dans les régions les plus inhospitalières, et puis je vais vous emmener dans un voyage qui ira du sud au nord, dans les régions tropicales, dans nos régions, et je vous montrerai à quel point des espèces, même très proches de nous, peuvent faire face à des contraintes climatiques sévères. Donc ce voyage va d'abord nous emmener chez les oiseaux qui jeûnent au froid. Jeûner au froid, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, d'une part, qu'il faut épargner les réserves pour pouvoir résister à un jeûne prolongé, qui, vous le verrez, peut être associé à la reproduction, à la formation des couples, à l'incubation, à la migration ou à la mue. Mais pour les oiseaux qui vivent dans les régions les plus froides, pour lutter, il faut de l'énergie. Et c'est ce que nous allons étudier ensemble, quelles stratégies ont été développées dans l'évolution, sachant que les raisons pour lesquelles on trouve des oiseaux aussi bien, on le verra ensemble, dans les régions polaires du sud en Antarctique qu'au Groenland, les raisons sont liées à ce qui est le moteur de l'évolution, la disponibilité de ressources alimentaires. Et il faut en tirer parti. Donc ce voyage va nous emmener d'abord dans cette région correspondant à cet immense continent. L'Antarctique a une dimension qui correspond à 28 fois la France. Et dans cet océan austral, qui est très riche en ressources alimentaires pour ces animaux, qui, encore une fois, c'est ce qui explique qu'ils y vivent. Nous allons d'abord aller dans la région subantarctique, dans les terres australes, et ces travaux dont je vais vous parler sont les travaux de toute une équipe, bien sûr. Leur nom, le nom des chercheurs apparaîtra au fur et à mesure. Et il y a un cadre qui est celui de l'Institut polaire Paul-Émile Victor et des terres australes et antarctique française. Donc ici, je vous emmènerai dans les terres australes, étudier le manchot royal. Alors pourquoi le manchot royal ? Parce qu'avec son proche parent qui vit tout à fait au sud, en Terre Adélie, le manchot royal et le manchot empereur sont les deux stades les plus avancés dans l'adaptation au froid. En effet, ne croyez surtout pas que ce sont des oiseaux primitifs. Les manchots ne sont pas des oiseaux primitifs. Leurs ancêtres étaient des oiseaux volants qui vivaient à des latitudes tropicales ou tempérées, celles de l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Par conséquent, le processus évolutif qui a amené l'empereur à vivre, comme on le constate aujourd'hui, en Terre Adélie, est le processus d'une adaptation au froid extrême par rapport à celle que l'on va rencontrer chez le manchot royal, qui correspond par conséquent à un stade intermédiaire. Et vous allez voir qu'en comparant les deux espèces, on va comprendre ensemble quel est le facteur décisif qui a permis à la plus grande espèce, au manchot empereur, de vivre et de se reproduire même le long des côtes du continent antarctique. Encore une fois, ce ne sont pas des oiseaux primitifs. Leurs ancêtres étaient des oiseaux volants et ils représentent au contraire un stade extrêmement spécialisé d'adaptation à la vie marine. Donc nous allons commencer, je vais vous faire découvrir, je vais vous montrer beaucoup d'images ce soir pour vous montrer la vie de ces animaux. Nous nous retrouvons ici à l'île de la Possession dans l'archipel de Crozet, au milieu de l'océan Austral, à environ 45 degrés de latitude sud, et voici une colonie de 45 000 manchots royaux qui s'y reproduisent, qui commencent leur reproduction au début de l'été austral. Les colonies peuvent être encore plus grandes, puisque dans l'archipel de Crozet, sur l'une des îles, on compte une colonie de 1 million de manchots royaux. Ces oiseaux, vous voyez, défendent un territoire, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc encore une fois, le manchot royal, par rapport à la latitude à laquelle il se reproduit, représente un stade intermédiaire par rapport à son cousin, le manchot empereur, que l'on va voir vivre bientôt. Je vous ai dit, le cycle reproducteur commence durant l'été austral. La particularité du manchot royal est que le cycle reproducteur dure plus d'un an. En effet, les poussins sont abandonnés à partir du mois de mai. Les saisons sont inversées, bien sûr. Le mois de mai, c'est le début de l'hiver. Et on voit ici un poussin à gauche qui est bien nourri, un poussin de 12 kilos qui va devoir affronter un jeûne qui peut atteindre 3, 4, 5 mois, c'est-à-dire jusqu'à l'été suivant. Et vous avez des poussins là qui manifestement n'arriveront pas à tolérer ce long jeûne hivernal. Et ce que l'on va voir ensemble, un peu plus tard, c'est pourquoi les parents abandonnent ces poussins. Donc, si la vie des manchots est caractérisée par l'alternance de périodes de jeûne à terre, car ils se nourrissent exclusivement en mer, et on ira voir où ils se nourrissent, ça fait partie de leurs contraintes, vous retenez déjà que les poussins aussi peuvent jeûner. Mais, en sachant qu'un poussin de 12 kilos va atteindre parfois le poids de 3 kilos après 4 à 5 mois de jeûne, vous voyez leur possibilité de reconstitution de leurs réserves pour ceux qui ont survécu, avec ce nourrissage par régurgitation, car la nourriture est ramenée de la mer et régurgitée, qui illustre parfaitement la théorie des vases communicants. Et on passe donc à la deuxième espèce, dont je vais vous présenter la vie maintenant, qui est le manchot empereur. Voici, c'est un spectacle inoubliable pour ceux qui ont hiverné. J'ai eu la chance d'hiverner à l'époque où Paul-Émile Victor a effectué son dernier voyage, son dernier séjour de longue durée en Terre Adélie. Et voici cette longue colonne de manchots empereurs, environ 3 000 manchots empereurs, qui passant à côté d'un grand iceberg, prisonnier de la banquise nouvellement formée, c'est le début de l'hiver. Donc vous voyez déjà la différence entre les deux espèces. Non seulement vous n'avez pas vu de glace tout à l'heure, à 45 degrés sud, il n'y a pas de glace pour le manchot royal, et donc pas de contrainte pour aller se nourrir en mer libre. Par contre, vous voyez déjà que ces manchots empereurs qui se dirigent vers un endroit tout à fait particulier, bien ancré entre le continent et des îles, la seule glace de mer que nous n'avons pas vue disparaître depuis que ces oiseaux sont observés, c'est-à-dire une cinquantaine d'années, voici cette longue colonne de manchots empereurs qui est à jeun, puisqu'encore une fois, ils se nourrissent qu'en mer, et qui, à la queue leu-leu, à 1 km/h, vont commencer à long jeûne sur la banquise. Et alors que les oiseaux que nous avons vus tout à l'heure, les manchots royaux, ne dépassent pas 50 à 60 jours de jeûne, ce qui est déjà remarquable pour un animal dont la masse corporelle ne dépasse pas 14 kg, je parle du manchot royal, ces manchots empereurs, mais on va le voir, ils sont beaucoup plus grands, viennent et pour un très long jeûne, notamment pour les mâles. Voici un détail d'une colonie avec des individus qui dépassent un peu plus vite, qui vont un petit peu plus vite, qui vont remonter la file en toboganant ces dents de leurs ailerons et de leurs pattes. Une fois arrivés sur cet endroit, cette zone que nous avons appelée préférentielle, parce que la colonie ne sera pas détruite, ne risque pas d'être détruite par une tempête, les tempêtes sont fréquentes, les vents dépassent souvent 200 km/h, les températures, pas en Terre Adélie, les plus basses températures sont de l'ordre de moins 30 degrés Celsius, mais pour d'autres colonies, la température peut descendre à moins 50, moins 55 degrés. Donc, arrivé dans la colonie, mâle et femelle, la femelle est à gauche ici, le mâle à droite, les couples se forment, et mâle et femelle vont procéder à un échange. Ce n'est pas un scoop, c'est la femelle qui pond, je ne pense pas vous surprendre. L'œuf va rouler sur la glace. Il y a 500 mètres d'eau au-dessous, on est sur de la banquise encore une fois. L'œuf va être pris par le mâle et il va le prendre dans, vous voyez, cette poche ici. En fait, la poche, elle est formée par l'oiseau de gauche. Cette partie de l'abdomen est dépourvue de plumes et cette peau très vascularisée va mettre l'œuf, qui peut atteindre une 500 grammes, 600 grammes, va le mettre à une température de 34 degrés, 35 degrés, pendant 65 jours. Mais à ce moment-là, au moment de l'échange, il y a déjà une cinquantaine de jours de jeûne, 40-50 jours. Vont se rajouter 65 jours. Vous calculez 115 jours de jeûne pour le mâle, car c'est le mâle qui assure la totalité de l'incubation. Après avoir laissé l'œuf au mâle, entre cette partie de peau, le plumage qui va recouvrir l'œuf et les pattes, ce qui permet à l'oiseau, je ne vais pas monter sur la table pour faire la démonstration, mais en ayant les pattes, les doigts levés, l'œuf est maintenu contre l'abdomen et l'oiseau peut se déplacer. On va voir l'importance de cette absence de nid tout à l'heure. Donc, la femelle part et elle reviendra au moment de l'éclosion, c'est-à-dire 115 jours plus tard, ou 120 jours. On verra alors ce qui se passe si le poussin est déjà éclos. Évidemment, vous en doutez, quand j'ai commencé à étudier ces oiseaux, quand j'ai hiverné pendant 15 mois, c'était mon premier séjour là-bas, j'ai voulu d'abord étudier comment ils faisaient face au froid, avant d'étudier le jeûne. Car vous avez compris, ils jeûnent au froid, c'est manifeste. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un grand avantage à avoir une grande taille pour tolérer le froid. Car plus on se rapproche d'une sphère et d'une sphère de grande taille, plus la masse est grande par rapport à la surface dissipatrice de chaleur. Et le manchot empereur est, par rapport à cet idéal d'une sphère, l'oiseau idéal. Surtout, lorsqu'il rentre sa tête, il se met en boule, enfin, avec son œuf sur les pattes. Donc, avantage déjà. Ensuite, et ceci, je le situe par rapport à ce panneau qui, c'est pour vous montrer les autres espèces qui existent. Vous ne savez peut-être pas qu'il existe un manchot qui a la taille d'un gros pigeon, c'est celui-ci, c'est le petit manchot bleu australien. Et vous voyez ces panneaux qui préviennent les automobilistes australiens de ralentir pour ne pas écraser ces oiseaux de la taille d'un gros pigeon. Il y a un avantage à la grande taille du manchot empereur par rapport à la lutte contre le froid. À ceci s'ajoute une grande densité de plumes et le fait que si vous regardez un goéland, dans les terres australes, il y a des goélands, il y a d'autres oiseaux aussi qui viennent en été le long des côtes du continent antarctique. Lorsque vous les observez avec un peu de vent, dès que la vitesse du vent est de 4 à 5 mètres par seconde, voyez les plumes désorganisées. Pas chez un manchot. Les plumes, comme on le voit ici, sont tout à fait particulières. Voyez ici une plume extrêmement rigide qui joue le rôle d'un vêtements qui vous protègent, je ne veux pas faire de données de marque, mais il y a des vêtements bien connus qui protègent du vent. C'est la protection de l'oiseau contre le vent. Et à la base de cette plume, vous avez ce duvet qui est équivalent au meilleur duvet, c'est-à-dire le duvet d'oie d'Eder. Du duvet d'Eder. Donc une isolation avec deux structures. Ce duvet qui isole du froid, et cette plume extrêmement rigide qui joue le rôle des tuiles sur un toit qui protège mécaniquement également. Ça explique que le manchot empereur est, par rapport ici, vous voyez ce minimum de production de chaleur, les ordonnées ici, c'est le métabolisme de repos. Vous êtes assis, si je ne vous stresse pas trop, vous êtes au repos. Là, ici, vous avez la température ambiante. Notre métabolisme est minimal, comme cet oiseau, mais pour nous, il l'est à cette température, à environ 20 degrés. L'intérêt de cette grande taille et du plumage du manchot empereur, c'est que cela lui permet de ne pas augmenter sa production de chaleur jusqu'à une température de moins 10 degrés. Mais comme vous le voyez, en dessous de moins 10, son métabolisme augmente pour pouvoir maintenir sa température à 38 degrés. Cette augmentation, donc, survient alors que l'animal est très bien isolé, c'est-à-dire que là, on est aux limites d'efficacité métabolique permettant à l'animal d'avoir une production de chaleur minimale à des basses températures. Et ces températures sont rencontrées pratiquement tout l'hiver. Ce qui n'est pas le cas du manchot royal. Le manchot royal est au minimum dans les températures qu'il rencontre, les températures les plus basses qu'il rencontre dans les terres australes. Et c'est ce qui explique que les manchots royaux maintiennent un territoire, coup de bec, coup d'aileron, 1500 coups de bec, par 24 heures. Le nombre de coups d'aileron est encore plus grand. L'équivalent de 6 heures sur 24 à se battre pour maintenir un territoire. Ce que ne font pas les manchots empereurs. Et les pionniers dans l'étude de ces oiseaux, dans les premières expéditions de Paul Melvictor, ont bien compris que ce comportement de la tortue par analogie avec les légionnaires romains qui se serraient les uns contre les autres avec leurs boucliers, que cette tortue, avec ses milliers d'oiseaux, parfois, serrés les uns contre les autres, 10 oiseaux, je ne vous ai pas encore dit la taille, le manchot empereur peut peser 40 kilos au début de son jeûne, 10 oiseaux au mètre carré, tellement la densité est grande. Ils se serrent les uns contre les autres. Vous voyez, là, ils sont couverts de neige parce qu'il y a des tempêtes de neige. Je vous ai dit, de la glace, de la neige, balaie la colonie à 100, 200, voire 300 km/h comme nous l'avons eu lors de mon hivernage. Alors on avait compris depuis longtemps que cette formation de tortue avait un rôle essentiel dans ce stade extrême de l'adaptation au froid que constitue le manchot empereur par rapport au manchot royal. Nous l'avons élucidé depuis peu. Au départ, lorsque j'ai hiverné en 1972, nous n'avions pas les techniques permettant de répondre à la question de l'économie d'énergie. Nous savions seulement, depuis les travaux de ce pionnier qui avait été Jean Prévost, nous savions que en tortue, les oiseaux ont une vitesse d'amaigrissement deux fois plus faible que quand ils sont isolés dans la colonie. Et c'est donc relativement récemment que nous avons démontré, en utilisant des isotopes stables, alors est-ce que c'est un isotope stable ? C'est un isotope non radioactif qui permet, une technique qui permet depuis quelques années de mesurer la dépense énergétique de l'animal. Alors on retrouve ici les augmentations vues avec un masque, c'était mes premières études, on met à l'animal un masque respiratoire, et comme on le fait pour l'homme dans un service hospitalier éventuellement, un service d'exploration fonctionnelle, c'est ce qui se faisait autrefois pour déterminer le mauvais fonctionnement de la thyroïde, par exemple, on mesure la consommation d'oxygène, et de là, le métabolisme. Ici, c'est ramené le watt, ça vous donne une échelle par rapport à une ampoule, par kilo de masse corporelle. Donc, je vous le rappelle, en dessous de moins 10 degrés, chez l'individu isolé, le métabolisme augmente. Eh bien, avec l'isotope stable, nous avons pu montrer que les oiseaux en tortue non seulement évitent cette augmentation au froid, mais sont même en dessous, vous voyez cette différence ici, du niveau minimal de dépenses énergétiques. C'est comme si vous aviez la possibilité, alors c'est possible à un petit niveau par le yoga, de réduire votre métabolisme. Et donc là, grâce à la tortue, on a un super yoga avec une réduction, vous voyez, on passe de 2 watts par kilo corporel à seulement 1,5 pour l'animal. Cette économie est énorme. Et c'est ce qui permet à l'oiseau de jeûner 100 à 120 jours et d'assurer son succès reproducteur, c'est-à-dire d'assurer l'incubation jusqu'au retour de la femelle. Alors que les oiseaux qui sont isolés, on peut le calculer, abandonneraient l'œuf avant le stade de l'éclosion. Comment fonctionne une tortue ? Eh bien, ce ne sont pas toujours les mêmes oiseaux qui sont à l'intérieur. Les oiseaux qui sont les plus exposés au froid, surtout le vent, vous imaginez 100 km/h de vent à moins 30, comme on le rencontre en Terre Adélie, 200, 300 km/h même à moins 30, c'est un pouvoir de refroidissement qui est considérable. Les oiseaux marchent très lentement, 25 mètres par jour. Ils se retrouvent, à un moment donné, protégés du vent. Et ainsi de suite. Ceux qui étaient à l'intérieur se retrouvent soumis au vent. L'ensemble se déplace. À partir de là, vous avez bien compris que cette tortue de manchot empereur, on en voit ici une magnifique près d'une base australienne, cette tortue de manchot empereur est le facteur décisif de l'adaptation au froid du manchot empereur. Et que par conséquent, bien qu'il vive dans des conditions extrêmes, le manchot empereur se trouve dans un état de métabolisme réduit qui va lui permettre d'affronter un long jeûne. La suite de l'histoire, c'est de répondre aux questions qui ont trait aux contraintes liées au jeûne, que rencontrent aussi beaucoup d'autres oiseaux. À partir de là, je voudrais quand même vous parler des conséquences, les contraintes énergétiques, c'est aussi faire face au fait d'être mal isolé contre le froid. Je vais peut-être vous surprendre, mais ça arrive également chez ces oiseaux, chez les manchots. En effet, durant la mue, comme l'oiseau qui est au premier plan ici, les plumes tombent, et au moment le plus chaud de l'année, pour le manchot royal, la température peut monter à 10 ou 15 degrés au moment de l'été, au moment le plus chaud de l'année, ils vont perdre en 20-25 jours autant de poids, même plus, que durant leur long jeûne de 50 jours en hiver, parce que l'isolation est réduite. Et nous avons étudié un autre oiseau qui, je passe à une autre espèce, qui a un succès extraordinaire dans la colonisation de notre planète, c'est le grand cormoran. Le grand cormoran est un oiseau d'origine tropicale. Et ce qui est frappant, c'est que l'isolation thermique, au point de vue du plumage, des oiseaux qui vivent au tropique, ou même ici, le long des côtes du Groenland, est la même, ou quasiment la même. C'est un oiseau qui est relativement mal isolé. Eh bien, je vais vous démontrer ce soir également, et c'est l'anti-manchot par rapport au manchot qui est bien isolé, eh bien, je vais vous montrer que même en étant mal isolé, on peut très bien se débrouiller au froid. Alors, ce que nous avons fait au laboratoire, vous voyez le nom ici du principal chercheur, nous avons étudié le temps passé dans l'eau, et c'est possible avec des appareils miniaturisés, ultra-miniaturisés, dont on équipe les cormorans, pour savoir combien de temps ils passent dans l'eau. Et ici, vous avez le temps passé pour des grands cormorans en Normandie pour se nourrir pour toute la journée, 150 minutes. Au Groenland en été, les grands cormorans se nourrissent pour toute la journée en seulement une quarantaine de minutes. Au Groenland en hiver, alors que la température de l'air se rapproche de moins 20 en moyenne, que la température de l'eau est légèrement négative, ils se nourrissent, il leur faut entre 5 et 10 minutes pour toute la journée. Ceci ne peut marcher, bien sûr, que parce qu'il y a beaucoup de poissons. Mais vous voyez, ne retenez pas ce soir que l'on peut faire face aux contraintes énergétiques à la fois en étant bien isolé, mais encore une fois, il faut un comportement social, le manchot empereur l'illustre, mais on peut aussi, avec un comportement individuel, en passant très peu de temps dans l'eau, et en se séchant ensuite, on peut vivre dans les régions, des régions parmi les plus inhospitalières de notre planète. Il y a un autre problème, du point de vue des contraintes énergétiques, c'est lorsque l'on est très petit. Pardon de l'image suivante, je n'ai pas eu le temps de vous la mettre en français également. Mais c'est ce qu'on appelle une courbe allométrique. En ordonnée, vous avez le métabolisme à nouveau en watts par kilo. Vous retrouvez la valeur ici pour le manchot empereur, de l'ordre de 2 watts par kilo pour l'individu à son minimum. Regardez cette évolution. Quand la masse corporelle diminue, l'oie, la chouette, la tourterelle, la caille, c'est déjà un oiseau de petite taille, le moineau domestique et les oiseaux-mouches, les colibris. Une dépense par unité de masse corporelle pour maintenir la température interne qui est 25 fois plus grande. On est évidemment, lorsque l'on est un colibri, très éloigné de la grande sphère, une surface très grande pour une masse très petite. Une faible masse productrice de chaleur par rapport à la surface de déperdition. Un métabolisme 25 fois plus grand. Si vous et moi, nous avions le même que celui de l'oiseau-mouche, nous aurions une température de 100 degrés. Mais ça veut dire aussi que l'oiseau-mouche ne peut pas tolérer 24 heures de jeûne. Et il y a une stratégie pour les oiseaux de petite taille. Ils rentrent en hibernation, une espèce de torpeur d'hibernation. L'oiseau-mouche dans les Andes, qui est soumis sur son nid à une période de mauvais temps qui l'empêche de s'alimenter, va rentrer en torpeur sur son nid. Et voici un exemple de torpeur, la mésange boréale, en Norvège, c'est pas très loin de chez nous. Elle hiverne. Vous allez voir cette anticipation de l'organisme tout à fait extraordinaire. Selon la température de la nuit, ici nous avons la température entre 16h et 8h du matin, il fait nuit en Norvège, dans le nord, la région de Trondheim, c'est même pas l'extrême nord de la Norvège. Lorsque la température est de 20 degrés, vous avez déjà une diminution de la température de l'oiseau durant la nuit. Sinon, il ne pourrait pas tolérer la longueur de la nuit hivernale. Donc même bien nourri, 20 degrés, sa température diminue pour économiser les réserves durant la nuit. Lorsque la température est de 0 degré, c'est la courbe du dessous, vous voyez ici, sa température descend davantage. Lorsqu'il fait moins 20, elle descend encore plus. Elle passe d'environ 40-41 degrés, parce que la température des oiseaux de petite taille est plus élevée que celle des oiseaux de grande taille. Elle descend à 33 degrés. L'oiseau est bien nourri. Il y a un ajustement de l'organisme au début de la nuit qui anticipe la déplétion qui surviendrait dans les réserves et s'est ajusté en fonction de la température ambiante. Qui plus est, regardez ici l'oiseau à 0 degré, qui, lorsqu'il est bien nourri, a une température qui descend à 37 degrés, elle descend à 33-32 degrés. La température, l'évolution durant la nuit, cette hypothermie est ajustée sur les réserves au début de la nuit, comme sur la température ambiante. Vous voyez une merveilleuse adaptation, dont on ne connaît pas encore le mécanisme. Maintenant, une question essentielle aussi. Quand vous avez un oiseau qui jeûne, on va revenir sur les manchots notamment, prenons l'exemple de l'oiseau qui jeûne, et dont le conjoint ne revient pas. On sait qu'il est capable de prolonger son jeûne. Néanmoins, on n'a jamais trouvé un manchot mort de faim. Jamais. Donc, nous sommes intéressés à ce mécanisme que nous sommes en train d'étudier, qui permet à l'animal de se réalimenter avant qu'il ne soit trop tard. Si le conjoint ne revient pas, à un moment donné, l'oiseau abandonne. Alors là, je vous donne l'un des principaux résultats de nos études. Je vais le rendre aussi facile que possible. Nous avons montré que dans le monde animal, et les manchots n'y échappent pas, sont ici présentés le pourcentage de l'énergie au cours du jeûne qui dérive des graisses. 95% vient des graisses pendant toute la durée du jeûne. Mais ensuite, il y a une diminution de l'énergie qui vient des graisses, à l'opposé, car l'énergie ne peut venir que des graisses ou des protéines, il n'y a plus de glucose, le glycogène est très rapidement épuisé. Environ 4 ou 5 % de la dépense d'énergie donc provient des protéines, et lorsque le jeûne se prolonge, et là vous ne serez pas surpris, il y a environ 115 jours de jeûne, l'énergie qui vient des protéines augmente. On sait depuis très longtemps que si cette situation se prolonge, c'est la mort. On sait chez l'animal, chez l'homme. Et du point de vue de l'adaptation au jeûne, un manchot empereur n'est pas différent, par exemple, d'un homme qui a d'énormes réserves lipidiques. Il se comporte de la même manière, 95%. Par contre, évidemment, personne n'a essayé d'étudier comme nous l'avons observé au cours d'un jeûne qui est spontané, l'évolution de la production sur un jeûne très long chez l'homme. Mais on sait par contre, quand on prend la littérature, que de nombreux cas de mort sont survenus chez l'homme obèse à une époque, dans les années 60, où on leur faisait suivre, notamment aux États-Unis, des jeûnes prolongés pour les faire maigrir. Donc vous voyez l'intérêt de comprendre quel est ce signal très fort qui fait que ce poussin ici va mourir, abandonné par son parent, alors que celui-ci a plus de chance. Son parent, manifestement, n'a pas atteint un stade critique dans ses réserves et est toujours là pour le protéger et le nourrir. Donc, comment se fait-il que ce signal soit déclenché, signal qui explique que l'on trouve, vous voyez, ce poussin en phase finale de jeûne, et ces poussins ici, à un moment donné dans la colonie. Le seul fait que ces animaux partent à un moment donné était la preuve de l'existence de ce signal, et ce que nous avons pu démontrer, c'est que par rapport à cette augmentation de l'utilisation des protéines, c'est à ce moment-là qu'un mécanisme intervient qui part de ce stade, un certain stade dans les lipides, il y a encore des graisses, nous le savons, et c'est ce qui est observé ici. Nous avons étudié ici avec un petit appareil, comme je fais de l'exercice tous les matins, vous savez que certains font de l'exercice, j'en ai pas, mais un petit appareil qui compte les pas, et fréquence cardiaque, tout ça devient comme les animaux que nous étudions. Et vous voyez ici une augmentation du nombre de pas qui reflète ce mécanisme très fort qui fait que l'animal change de comportement. Cette augmentation ici de la vitesse d'amaigrissement que vous observez en bas traduit l'augmentation de l'utilisation des muscles. Ici, on passe d'une cinquantaine de pas par 24 heures à 500, 600 pas. C'est le signal que l'animal va abandonner. Et il part. Nous avons pu montrer que ce signal est associé à un certain seuil dans les graisses. Mais évidemment, où se nourrir ? Car ce que nous voulions savoir, c'est si cette quantité de graisse qui reste au moment où l'animal part correspond, permet à l'animal de couvrir la distance qu'il a à couvrir. Car rappelez-vous, il y a une grande distance de banquise. Et aujourd'hui, avec la technologie, notamment française, qui a été à l'origine d'Argos, c'est le CNES en France qui a été à l'origine, et l'organisme qui suit les animaux, vous le savez aussi, pour les courses de navires, la course du Rhum notamment, chaque bateau sera suivi par balises Argos miniaturisées. En voilà une, encore plus miniaturisée, et qui nous permet de suivre ces animaux de Strasbourg sur nos ordinateurs. Donc ce que nous voulions savoir, c'est quand un oiseau part, et là on va suivre la trace de deux individus, deux manchots empereurs, qui partent. Ici c'est la côte du continent antarctique. Il y a deux informations par satellite sur cette image. Le suivi Argos de deux individus, un ici, un autre qui est parti dans une direction complètement différente. Et ces couleurs que vous voyez, c'est d'un autre satellite qui donne la couleur, nous indique lorsque c'est de la glace. Donc ici, le long des côtes, bien ancrée encore une fois la colonie, tout ceci est de la glace de mer. La mer libre est bien plus au nord, mais les oiseaux sont capables de trouver des zones orangées. Les zones orangées sont des zones d'eau ouverte dans la banquise. Comment font-ils pour les trouver ? Nous ne le savons pas. Mais cet oiseau-là a marché sur 130 km, celui-ci sur 150 km. Or, nous savons que lorsque les oiseaux ont atteint ce seuil qui va déterminer leur départ si le conjoint ne revient pas, les oiseaux ont encore de quoi marcher sur 180 km. Donc finalement, il y a une marge de sécurité lorsque ce signal est mis en place. Et ce signal de réalimentation, qui coïncide avec le moment où les protéines vont être plus utilisées, ce signal va permettre à l'animal de se réalimenter avant que la moitié de ses protéines ont disparu, ce qui, d'après les données de la littérature, nous avons pu le reconstituer, survenait probablement dans les cas tragiques de décès à cette époque où les équipes, à l'étranger notamment, essayaient d'être en compétition pour le plus grand longjeune de traitement de l'obésité. Les oiseaux ont un signal interne très efficace. Finalement, cette marge de sécurité, j'ai photographié là la notice de ma voiture, c'est l'équivalent de l'automobiliste qui est averti par ce signal qui lui dit de reprendre l'essence du carburant sur l'autoroute alors qu'il a encore une marge de sécurité peut-être d'une cinquantaine de kilomètres. Le signal que nous avons découvert, c'est l'équivalent dans l'organisme. Et il correspond à un certain niveau d'utilisation des lipides, un certain seuil, et il permet à l'animal de se réalimenter avant qu'il soit trop tard. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais la progéniture. Eh bien, nous avons aussi découvert des mécanismes qui permettent aux oiseaux de survivre, tant à la progéniture de survivre, tant que les parents n'ont pas atteint ce seuil dans leurs réserves. Premier cas de figure, la nourriture est lointaine, les manchots. Vous l'avez compris, la nourriture est lointaine, on vient de le voir pour le manchot empereur. Ce n'est pas seulement le cas des manchots. Les grandes distances pour revenir de la mer, c'est aussi le cas des albatros, par exemple. Mais revenons à nos manchots. En les suivant par satellite, nous avons pu découvrir, nous avons été stupéfaits de voir qu'en été, en partant de Crozet, l'île que je vous ai montrée tout à l'heure, ils allaient vers le sud à 400 km ou plus, chercher la nourriture pour leurs poussins en été. En hiver, ils vont même beaucoup plus loin, puisqu'ils vont dans la zone où vit le manchot empereur. Ils vont à plus de 1500 km. C'est un voyage de 3500 km, 4000 km au total. Parce que la nourriture a disparu au voisinage, le voisinage c'était 400 km, a disparu au voisinage des îles des Terres australes, et les oiseaux doivent aller dans la zone des glaces, et c'est ce qui explique que les poussins jeûnent pendant 3 ou 4 mois. Les parents reviendront lors du nouvel été, lorsque les ressources seront à 300 ou 400 km, pour chercher la nourriture et la ramener à leurs poussins. Mais, même à 400 km, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Vous avez tous entendu parler de El Niño, ce changement climatique qui affecte régulièrement le Pacifique. Il semble qu'il puisse expliquer le fait que dans les terres australes, il y ait une anomalie climatique. Ici, c'est la hauteur du niveau de la mer à Kerguelen, selon les années. Cette hauteur ici, et ces travaux sont faits, vous avez vu les noms apparaître, de Jean-Benoît Charassin, Charles Bost, sont faits en collaboration avec une équipe très compétente au Muséum d'histoire naturelle, celle de M. Park. Là, nous sommes à l'interface entre plusieurs disciplines, entre la biologie et l'océanographie. Les années d'un réchauffement, la distance, ce sont des trajets en mer qui sont placés ici, les trajets bleus. Vous voyez que ces trajets sont les plus longs. Les oiseaux vont à 600, 700 km chercher leur nourriture pour leurs poussins en été. Mais ça a une conséquence. C'est que chez le mâle et la femelle, pour le mâle et la femelle de manchot royal, qui contrairement au manchot empereur assure à tour de rôle l'incubation, la femelle normalement revient au moment de l'éclosion. Si elle revient avant, avec la nourriture, pas de problème. Nous sommes posés la question, que se passe-t-il pour le mâle qui est là en train de jeûner? Est-ce qu'il a, lui, un mécanisme permettant d'anticiper le fait que la femelle peut être retardée par un tel changement climatique, et elle peut être retardée au moins 10 jours? Eh bien, le mâle a ce mécanisme. C'est ce que nous avons démontré il y a relativement peu de temps. Au moment de l'éclosion, si la femelle n'est pas revenue, le mâle est capable de régurgiter de la nourriture qu'il avait amenée 3 semaines avant l'éclosion, lorsqu'il avait relevé la femelle pour son voyage qui normalement doit la ramener à l'éclosion. Il avait ramené la nourriture dans son estomac des poissons qu'il a conservés pendant 3 semaines à 38 degrés et qui sont quasiment intacts. Un autre exemple où la nourriture est très proche, l'Hédera duvée, nous sommes allés l'étudier au Spitzberg. La femelle d'Hédera duvée ne mange pas du tout, mais elle est à 100 ou 200 mètres de la mer. Eh bien, la comparaison avec les manchots nous a permis de voir, elle a une stratégie différente. Elle a un nid, ça facilite les choses. Elle recouvre son nid de duvet, elle part en mer, un peu, alors qu'elle jeûne totalement durant l'incubation, elle part, mais juste ce qu'il faut pour manger un tout petit peu, et au lieu d'être présente sur le nid à 99% du temps, car elle s'absente quand même durant l'incubation pour aller boire, elle va commencer à s'alimenter, mais très peu, pour empêcher que sa masse corporelle descende, comme si un automobiliste faisait le plein en essayant de garder son réservoir à ce qui lui permet normalement de faire quelques dizaines de kilomètres. Nouvelle stratégie, nouveau compromis. Là, il y a un compromis. qui va assurer, si l'éclosion n'a pas eu lieu, le succès reproducteur. Et puis je termine cet exposé avec les oiseaux du peuple migrateur. Pour ceux qui ont vu ce magnifique film, et certaines images sont issues de l'équipe de Jacques Perrin, vous avez dû voir que la contrainte énergétique, ce n'est pas seulement traverser des mers, c'est aussi voler dans des régions inhospitalières, c'est voler au-dessus des plus hautes montagnes, traverser les mers. Et ce sont les dernières contraintes énergétiques que nous allons étudier ensemble. Les signes, je vous ai dit d'entrée de jeu que les aviateurs ont vu des signes à plus de 8000 mètres, volant dans des vents, ils tiraient profit de vents de 180 km/h. Eh bien, il y a des oiseaux qui survolent l'Himalaya, comme l'oie tête barrée, comme des grues, des demoiselles de Numidie, et pas forcément en vol plané, ça coûte moins cher, mais aussi en vol battu. Quand on sait le peu d'oxygène, c'est un mystère. Un mystère aussi dans les adaptations des oiseaux qui n'est pas encore résolu. Ce petit clin d'œil à l'équipe du peuple migrateur qui nous a permis de voir ces oiseaux en vol, des bernaches, des oies des neiges. Alors l'oie des neiges, la voici. Cette oie des neiges, c'est un oiseau qui effectue une migration le long des côtes américaines. Les étapes sont donc très importantes. Elle est chassée, ce qui va l'amener à aller à des endroits qui ne sont pas forcément les plus favorables. Ça fait partie des contraintes énergétiques, conséquence de la chasse. S'il n'y a pas des réserves où les oiseaux peuvent s'alimenter correctement, vous en voyez les conséquences. Et c'est ce qui est représenté ici. Vous l'avez compris, les oiseaux utilisent à la fois de la graisse et leur masse mec, c'est-à-dire leurs muscles. C'est représenté ici pour un autre oiseau, un bécasseau. Ces oiseaux qui sont aussi chassés. Du banc d'Arguin aux Pays-Bas, avec ici une étape qui permet de reconstituer les réserves pour assurer la totalité de la migration. D'autres contraintes aussi, je trouve que c'est un très bel exemple. Mon ami Gushi, un Japonais, a étudié ces grues. Je vous ai dit qu'elles survolent l'Himalaya. Ces grues qui vont de Sibérie au Japon, par exemple, des espèces rares. Ce n'est pas cette espèce, là, c'est une espèce de, des grues du peuple migrateur. Eh bien, il a démontré que l'un des endroits clés pour leurs étapes de repos est la zone démilitarisée entre les deux Corées, le seul endroit où, dans les environs, les grues, ces grues très menacées, ne sont pas canardées. La zone démilitarisée, elle a seulement 8 km de large. Les oiseaux l'utilisent. Une autre contrainte, le vol plané, c'est très avantageux énergétiquement, mais ça a une conséquence. Le vol plané n'est pas utilisable en migration au-dessus des mers. C'est une contrainte énergétique. Il n'y a pas de courant ascendant au-dessus de la Méditerranée. Et les quelques cigognes immatures, car il s'agit de la cigogne, qui essaient de traverser la Méditerranée, disparaissent de notre suivi par satellite. Oiseaux inexpérimentés, les oiseaux expérimentés, eux le savent bien, ils passent soit par Gibraltar, soit par le Bosphore, pour migrer en Afrique. Et ce sera la dernière image de mon exposé, avec les références d'un site, vous pouvez avoir accès au suivi que nous faisons des oiseaux par Balise Argos. Nous ne suivons pas uniquement des oiseaux, nous suivons également actuellement, par exemple, des tortulutes pour mieux comprendre les problèmes avec les filets dérivants des tortulutes que nous équipons en Guyane. Ça fait partie des espèces que nous suivons et c'est avec cette image d'une cigogne en vol, que je vous remercie de votre attention.
Cher monsieur, je voudrais d'abord vous remercier pour la clarté de votre exposé du point de vue de vos idées. de la rigueur scientifique dont vous avez fait part, et je vous en remercie beaucoup. La question que je voudrais vous poser serait la suivante. Si vous me le permettez, je serai sur les cigognes. Oui. Alors, ce qui est tout à fait curieux, c'est que parfois, en Alsace ou ailleurs dans le monde, on leur propose de se poser dans différents endroits. Et parfois, les dites cigognes se posent, on pourrait le penser d'une façon tout à fait fantaisiste, dans des endroits tout à fait incroyables. Elles ont beaucoup de difficultés pour pouvoir se poser dans ces endroits en question. Il y aurait même du bruit, une installation électrique, une usine, elles s'y poseraient quand même. Et on leur propose des endroits très agréables, elles n'y vont pas. Pourquoi ?
Il est difficile. C'est une bonne question, merci, mais à laquelle il est difficile de répondre, car le choix de l'oiseau, de l'emplacement de son nid, fait appel à de nombreux paramètres. On est parfois surpris du bruit, est-ce que c'est la distance par rapport à l'endroit où elle s'alimente ? Est-ce que c'est parce qu'il y a des facteurs qui les dérangent ? C'est vrai, vous avez raison, que souvent on a du mal à comprendre, mais les paramètres sont très nombreux. Et c'est ce qui fait qu'on a parfois du mal à comprendre pourquoi le nid est à tel endroit, alors qu'un autre paraîtrait beaucoup plus favorable. Par contre, dans les zones où il n'y a pas du tout d'endroit favorable, et je pense au Poitou-Charentes, eh bien, dans ce cas où des nids ont été installés, je peux vous dire que ces nids-là sont utilisés. Autre question aussi, pourquoi ils vont utiliser, parfois ils vont nicher en colonie, comme on le voit en Espagne ? Ça pourrait être une autre partie de votre question à laquelle je n'ai pas de réponse.
Je voulais vous poser une toute petite question, mais j'en aurai pour 2 secondes. Je me promène souvent dans Paris, et j'étais entre le pont Mirabeau, du côté droit, pour aller au pont d'Exelmans. Puis alors, j'ai regardé la Seine, et puis j'ai vu un bateau. Sur ce bateau, il y avait du sable. Et j'ai vu environ, peut-être, je ne les ai pas comptés, enfin j'ai compté comme ça, environ 200 ou 250 mouettes. Je m'étais posé la question pourquoi une telle concentration de mouettes aurait-ce été en raison du sable ou pas. Je vous remercie de votre réponse, c'est la dernière question que je vous poserai.
Oui, on voit actuellement les mouettes, en dehors de la zone de reproduction, sont très, très nombreuses, très loin de leur zone de reproduction. Il se trouve que j'étais ces derniers 15 jours sur les bords du lac de Constance. On voyait énormément de mouettes, là aussi. Ça fait partie de ce que l'on appelle l'ératisme.
Oui, merci. Votre exposé était tellement passionnant que j'aurais trop de questions. Je vais essayer de me limiter. Tout d'abord, sur le processus d'imprégnation qui, si j'ai bien compris, a été utilisé pour le peuple migrateur. D'autre part, sur les distances ahurissantes dont vous avez parlé, 400 km et 1500 km, qui succédaient à celles de 150 km pour les deux premiers manchots, je suppose que les 150 km, c'était sur la banquise, c'était de la marche, oui. Et que pour les autres, c'était de la nage, je suppose.
Oui, c'est pour ça que je vous ai dit que l'image satellitale avec des couleurs correspondait à de la glace.
Des polymnies, à la recherche de polymnies.
À la recherche de polynies, les polynies étant, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, ce sont les zones d'eau ouvertes dans la banquise.
Voilà, merci beaucoup.
Je vous en prie. Alors, pour compléter, sur les longues traversées des oiseaux, le cas le plus extraordinaire, c'est l'oiseau-mouche à gorge rubis, qui se reproduit aux États-Unis sur la côte Est, et qui rejoint en migration l'Amérique centrale. Cet oiseau pèse normalement 3 grammes. Sa masse corporelle, entendez bien, elle monte à 5 grammes avant la migration, à 2 grammes de graisse. Un peu d'augmentation de protéines aussi, parce que les petits oiseaux qui augmentent leur graisse doivent avoir davantage de muscles pour rester à l'efficacité maximale. Et donc, ils vont utiliser au fur et à mesure graisse et protéines, graisse et muscles. Il y aura moins besoin de muscles parce que les lipides vont diminuer aussi en masse. Et ça permet, ces 2 grammes de graisse, à ce petit oiseau-mouche de traverser le golfe du Mexique. et au cours d'un vol non-stop de 1500 km.
Oui, j'aurais voulu savoir si ces contraintes énergétiques ne s'accompagnent pas de variations et de taux d'hémoglobine et ou de vitesse de circulation sanguine.
Oui, alors, on va le donner dans les deux sens. Il y a à la fois, par rapport à votre question, un chamboulement métabolique complet pour l'oiseau en vol. C'est un vol de longue durée. Grâce aux isotopes stables, on sait que chez l'homme, la plus grande dépense d'énergie de longue durée est celle du Tour de France. C'est 5 fois le métabolisme de repos sur un temps très long. C'est le maximum que l'on puisse avoir chez l'homme. Chez l'oiseau, la dépense est multipliée par 7 à 10 fois. Et il y a notamment des changements de circulation, des ajustements métaboliques qui permettent cette augmentation prodigieuse du métabolisme. Je ne pense pas qu'il y ait un équivalent dans le monde animal. Le seul cas où on voit une augmentation encore plus grande de la dépense, c'est chez l'hibernant au cours du réveil, grâce à un tissu adipeux spécialisé qui est la graisse brune et qui permet à l'animal hibernant de se réchauffer rapidement. Il n'y a pas d'équivalent, je crois, au point de vue capacité de production de chaleur. Dans les deux cas, bien sûr, au point de vue de la circulation, il y a une énorme augmentation de la circulation sanguine. Et l'inverse, je n'en ai pas parlé, c'était un peu en dehors du sujet, mais quand nous avons étudié pourquoi les manchots arrivaient à plonger longtemps, nous sommes rendus compte que les réserves d'oxygène d'un manchot royal sont en théorie de 4 minutes alors qu'il plonge en moyenne 8 minutes. Les travaux d'Yves Andrich dans le laboratoire, il a montré, et là c'est l'inverse, réduction de la circulation sanguine, abaissement de la température corporelle. Il a montré que la température corporelle de l'oiseau, qui est normalement de l'ordre de 38 degrés, peut descendre jusqu'à 12-13 degrés dans certaines parties du corps. Comme un tissu froid consomme moins d'oxygène, c'est probablement ce qui explique qu'il plonge 8 minutes avec 4 minutes d'oxygène. Et dans ce cas-là, c'est l'inverse, circulation très réduite.
Bonjour, je voudrais savoir si les poussins morts constituent une ressource alimentaire peut-être occasionnelle pour les poussins qui seraient survivants.
Non, ils ne sont nourris que par régurgitation. Et je peux vous dire que, de toute façon, ces poussins morts gèlent très rapidement. Les poussins peuvent être victimes, par contre, de prédateurs, les pétrels géants, mais ils ne vont pas prendre un poussin en train de mourir de jeûne. Ils prendront un poussin bien nourri. Et on voit une image de poussin de manchot royal attaqué par un pétrel géant, très pudique, mais dans le peuple migrateur.
Les manchots, qui pèsent parfois une trentaine ou quarantaine de kilos, ont des ailes atrophiques et ne volent plus. Oui. Autrefois, il y a plusieurs millions d'années, il y avait des oiseaux de 40 ou 50 kilos qui volaient. Ils avaient une envergure d'ailes de combien à peu près ?
Vous me posez une colle. Vous me posez une colle. Sachant qu'un albatros hurleur a une envergure de 3,50 m et n'est même pas... Bon, il a le quart des poids que vous indiquez, tiers ou le quart. Ça voudrait dire peut-être des longueurs d'ailes, enfin une envergure totale, je ne sais pas. Je ne sais pas, je dis peut-être un chiffre au hasard, mais entre 5 et 10 mètres, je suppose. En tout cas, je ne sais pas si de tels oiseaux ont existé. Je n'en vois pas en tant que fossiles, mais par contre, des oiseaux qui ont bien existé sont ces manchots géants qui ont vécu, qui avaient déjà des ailerons comme les manchots d'aujourd'hui et qui ont vécu et dont on trouve des restes fossilisés et qui avaient une taille d'1,50 m à 2 m. Et ceux-là ont bien existé. Alors que les les animaux volants de grande envergure, c'était ma spéculation de tout à l'heure, étaient des dinosaures, c'était des reptiles volants, pardon. C'était des reptiles volants. Je ne pense pas, à ma connaissance, on n'a pas trouvé de fossiles d'oiseaux, c'est-à-dire avec des plumes, de telles envergures.
J'ai trouvé votre exposé très intéressant. Je ne connais pas bien ces disciplines. Je viens du monde des sciences sociales. Je voulais faire une remarque et une petite question. La remarque, c'est que j'ai été très intéressée de retrouver justement des comportements sociaux quand vous avez raconté la tortue chez les manchots empereurs qui avaient comme stratégie de lutter face au froid collectivement et non pas individuellement. Ça, c'était pour la remarque. Ma question, c'est de savoir par quels instruments vous obtenez les informations que vous utilisez après. Alors, pour ce qui est de la distance, des trajets, la balise Argos, on comprend bien. Par exemple, comment est-ce que vous mesurez la consommation de graisse et ce que vous avez raconté sur la consommation énergétique. Merci.
Vous savez, on est un peu éblouis, là, je ne vois pas où vous êtes. Très bien. Nous avons Argos. Argos qui permet de localiser par satellite. Nous avons le GPS miniaturisé maintenant. Nous avons, comme l'ont montré les travaux d'Henri Weissmann-Kirsch sur le grand albatros. Nous avons aussi, et c'est une combinaison des deux, des systèmes miniaturisés qui sont des systèmes d'acquisition de données. Vous connaissez le principe de l'ordinateur. Là, c'est de la taille d'un gros pouce. Et les oiseaux embarquent, dans notre jargon, embarquent ces appareils ultra miniaturisés qui permettent d'avoir, avec des capteurs adéquats et sans les gêner, des informations sur leur vitesse de déplacement, l'accélération, on peut avoir les mouvements du corps, on peut mettre des capteurs tellement petits, tellement ultra miniaturisés que l'on peut avoir la température au voisinage de l'œsophage, savoir quand ils mangent. On peut avoir la température de l'eau, on peut avoir des capteurs sont en train d'être fabriqués actuellement pour mesurer la salinité. C'est tout un champ qui s'ouvre et qui fait que des données dont je vous ai parlé ce soir, par exemple, la diminution de la température corporelle qui permet de doubler le temps de plongée, eh bien, ces données ont été obtenues sur des oiseaux qui étaient à 500 km en mer. Et qui évoluait par 300 mètres de profondeur. Et on a bien sûr la profondeur de l'animal avec des capteurs de pression. C'est une nouvelle discipline.
Ma question portait surtout sur les déplacements migratoires des oiseaux, en particulier, enfin, dans ce cas-là, des oiseaux. Et parce qu'en fait, enfin, dans les deux cas, c'est-à-dire la migration à longue distance que font les cigognes, par exemple, et aussi ces migrations que font les manchots quand ils cherchent un bras de mer d'eau libre pour aller pêcher et pour se récupérer, enfin restaurer, disons, leur masse. Et apparemment, ces déplacements sont à peu près droits, en ligne droite, sur un endroit qui semble connu. C'est donc pas une recherche aléatoire, on est bien dans un déplacement vers un endroit qui est connu. Donc, et aussi dans les migrations, on voit que 99% des oiseaux prennent la bonne direction, donc se déplacent vers les deux, enfin, soit le Gibraltar, soit le Bosphore, et ne cherchent pas à passer au milieu. Donc on a un phénomène soit d'apprentissage, soit de transmission, soit fixé dans la génétique. Et ça, c'est un phénomène qui m'a toujours intéressé, puisqu'on parlait, bon, des pigeons voyageurs qui retrouvaient leur colombier ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a comment se gère ce sens de l'orientation chez les oiseaux?
Alors, il y a plusieurs aspects. D'abord, il y a effectivement un aspect génétique. Vous savez peut-être, les cigognes ont été plus ou moins sédentarisées, je dis ça entre guillemets, parce qu'elles sont nourries en hiver, et il est possible qu'elles repartiraient s'il n'y avait plus de nourriture, à mes yeux. Mais les adultes sont sédentarisés, beaucoup d'adultes sont sédentarisés en Alsace. Les petits partent. Donc il y a bien un aspect génétique, instinctif, si vous voulez. Premier point. Deuxième point, on sait pour un certain nombre d'oiseaux qu'ils utilisent le soleil. Lorsque dans certaines études, des manchots ont été déplacés, ont été emmenés d'une colonie à une autre, ils revenaient en ligne droite lorsque le soleil était visible, car même en hiver, en plein hiver, il y a un petit peu de soleil tout de même sur la banquise, même si ça ne dure que 2 ou 3 heures. Et lorsque le soleil était visible, les oiseaux allaient en ligne droite. Il y a champ magnétique. Un article vient de paraître dans Nature il y a seulement quelques semaines qui montre que les oiseaux ont, comme l'homme, comme les mammifères, fonctionnent en fonction de 2 hémisphères. Alors, je ne me souviens plus très bien, mais je crois que c'est l'œil droit qui, parce que la perception du champ magnétique se fait à travers l'œil, c'est l'œil droit et donc l'hémisphère gauche qui interviennent. La truite, on a même parfaitement démonté le mécanisme de sensibilité au champ magnétique. Donc voilà quelques exemples. L'apprentissage, eh bien l'apprentissage, il existe, enfin probablement, car on ne voit pas comment on pourrait expliquer que les manchots empereurs aillent directement vers des polynies. Il y a d'une part comment ils peuvent s'orienter, probablement le soleil dans leur cas, probablement pas le champ magnétique parce qu'on est près du pôle sud magnétique et il bouge, mais ils vont probablement, en fonction d'une expérience qu'ils ont, ils commencent à se reproduire à l'âge de 4 ans, et pendant 4 ans, je dirais, c'est une suggestion, une hypothèse, ils ont tout le temps de savoir où se trouvent prioritairement les polynies.
Merci, monsieur Lemao.